du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, les téléphones portables et Internet révolutionnent nos vies. C'est vrai, c'est formidable d'avoir accès au monde entier et d'être en permanence connecté. Mais vous êtes-vous déjà demandé où allaient toutes ces informations? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Eh bien, c'est notamment grâce aux centres de données, les data centers.
Dans le monde, on estime à ce qu'il y a à peu près plus de 10 000 data centers. En France, des gros data centers, il y en a 150. Aujourd'hui, on est de plus en plus lié à ces infrastructures, puisque les communications mail, les communications audio, les communications visuelles sur YouTube, voire même parfois la télévision aujourd'hui, passent par des serveurs et donc par des data centers. Un data center, par exemple, de 10 000 m², c'est l'équivalent en consommation d'une ville de 50 000 habitants. C'est gigantesque.
Et oui, un mail ou une recherche sur Google, ça consomme beaucoup d'énergie. Le coût réel du virtuel, c'est une enquête de Caroline Langlois à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Les changements climatiques accroissent les tensions à l'échelle mondiale. Les conflits, la pauvreté, la faim, les migrations sont en train de se multiplier. Voilà pourquoi cette semaine, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à une mobilisation urgente et mondiale en 2015 lors de l'ouverture à Genève du congrès de l'Organisation météorologique mondiale. Depuis le mois de janvier, le Hongrois János Pastor est le sous-secrétaire général des Nations Unies au changement climatique. C'est lui qui assiste Ban Ki-moon dans sa stratégie. Nous l'avons rencontré lors de son récent passage à Paris.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Bonjour János Pastor.
Bonjour.
Le fait que les négociations internationales sur le climat se déroulent dans le cadre de la Convention des Nations Unies qui a été créée en 1992, c'est une bonne chose parce qu'en fait, elles incluent tous les pays. Il y a 196 pays membres aujourd'hui. Chaque pays a une voix, donc c'est l'intérêt de ce processus. Mais c'est aussi une limite parce que finalement, depuis 1992, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et les États n'arrivent pas à parvenir à un accord.
C'est vrai que depuis plus que 20 ans, on a tenté de négocier, mais en même temps, il y avait beaucoup de succès. Il y avait quand même le protocole de Kyoto, et on est arrivé à un prix de carbone. Mais maintenant, tout le monde en parle qu'il faut avoir un prix de carbone qui est assez élevé, donc ça a quand même changé le monde. Et c'est aussi vrai qu'il y a une structure, des mécanismes dans le cadre de la Convention qui nous permet de pas seulement discuter, mais aussi faire des choses. Donc, il y avait quand même des avances. Mais en même temps, il y a des pays comme l'Inde, comme la Chine, etc., qui ont encore un niveau de développement bas. Et il faut qu'ils puissent développer économiquement. Et jusqu'à maintenant, ça donnait encore beaucoup plus d'émissions. Maintenant, ça commence à changer là aussi, parce que la Chine, ils font énormément de développement énergétique avec les renouvelables. Donc ça change, et on commence à dissocier le développement économique et les émissions.
Alors, on voit en parallèle de la Convention des Nations Unies sur le climat beaucoup de réseaux, de groupes de pays qui se mettent ensemble pour travailler en fonction de leurs points communs ou au contraire même de leurs divergences. Ce qui fait que finalement, il y a une dynamique qui est complètement différente aujourd'hui en 2015 par rapport à 2009. Parce que tout le monde a en tête, quand on parle de la conférence de Paris, de l'échec de celle de Copenhague en 2009. Pour vous, est-ce que les choses ont beaucoup changé en 6 ans?
Bon, déjà, je parlerai pas sur un échec de Copenhague. Il y avait des choses dans cette conférence qui n'étaient peut-être pas idéales. Mais en même temps, c'était à Copenhague qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif de rester au-dessous de 2 degrés. C'était à Copenhague qu'on s'est mis d'accord sur l'idée d'avoir 100 milliards par année pour les pays en développement. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à Copenhague. Mais en même temps, effectivement, vous avez raison, on est dans une situation différente aujourd'hui. D'abord, les pays sont plus près, les gouvernements sont plus près pour un accord. Tout le monde veut un accord maintenant.
Et qu'est-ce qui explique ça selon vous?
Parce qu'ils savent très bien quel est le problème et qu'il faut avoir un accord, parce que le changement climatique est réel. En même temps, la révolution technologique, c'était aussi important. Le prix des énergies solaires, par exemple, l'éolienne, tout ça, c'est incroyablement baissé et ça donne beaucoup plus de possibilités. Maintenant, le gouvernement voit que c'est possible. le secteur privé sont beaucoup plus engagés qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a des choses à faire.
Il y a des opportunités économiques.
Et ils le font.
Alors là, en ce moment, il y a une sorte de course contre la montre, un petit peu, hein, par rapport à cet objectif de la conférence de Paris début décembre. François Hollande a mis la pression, même en déclarant que l'idéal serait qu'il y ait un accord de Paris avant Paris pour être sûr que ça marche. Est-ce qu'on va avoir assez de temps?
Il y a assez de temps, mais il y a encore beaucoup à faire. Et on peut pas dire, bon, on va tout laisser jusqu'à fin novembre et après, quelques jours avant la conférence, ou pendant la conférence, on va tout résoudre. On ne peut pas avoir ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut réduire les options à...
Aujourd'hui, le texte fait 86 pages.
C'est très long. Et il y a beaucoup des options, des sous-options et tout ça, il faut essayer de régler avant. Mais on peut pas tout résoudre avant Paris, ce n'est pas possible, mais on peut faire beaucoup.
Alors, à la dernière conférence de la Convention des Nations Unies sur le climat, c'était à Lima, au Pérou, il a été demandé aux pays d'apporter leur contribution, donc de dire, en gros, chaque pays, ce qu'il est capable de faire pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à l'intérieur de son pays. Seulement une petite quarantaine de pays ont rendu leur contribution aujourd'hui. Alors, la date butoir, c'est le mois d'octobre. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein.
Oui, une petite quarantaine, c'est quand même 40 pays et entre
oui,
eux.
Oui, on peut voir le verre à moitié plein.
Entre eux, ça représente une grande partie des émissions mondiales, donc c'est important.
Oui, parce que en même temps, il faut que ces contributions soient en lien avec ce que dit la science, hein. Aujourd'hui, si on met bout à bout, vous disiez, les grands pays émetteurs ont apporté leur contribution, pas tous, hein, on attend celle de la Chine, mais pour l'instant, si on met tout bout à bout, on n'est pas du tout dans la trajectoire de maintenir le réchauffement du climat en dessous des 2 degrés.
Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ça c'est ce que les pays sont prêts à faire aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Mais ça c'est une chose. Il faut aussi l'accord même. Et dans l'accord, il y aura, on espère, et c'est en train de négociation, des mécanismes réévaluer où nous sommes pour que on puisse nous mettre systématiquement, année après année, sur la trajectoire de 2 degrés.
Alors, ce qui a changé aussi en 6 ans, c'est la montée de la mobilisation. On voit qu'elle est croissante du côté de la société civile. Il y a les entreprises, il y a les villes. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent autour de cette convention. Mais pour autant, quelle est leur place aujourd'hui dans ces négociations?
Bon, ça, c'est quelque chose qui est très important pour le secrétaire général. Comme vous le savez, l'année passée, il a organisé le sommet à New York en septembre. Et l'idée, c'était d'encourager les différents acteurs, les ONG, le secteur privé, au niveau de finances aussi, au niveau de l'énergie, des villes, de tous ces acteurs, de venir et de montrer ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on parle souvent de l'agenda négatif, les effets de changement climatique, et il faut en parler, c'est vrai. Mais en même temps, il faut parler des solutions.
La grosse difficulté de ces négociations sur le climat, c'est cette notion d'équité, c'est-à-dire tous les pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas pollué l'atmosphère de notre planète et qui réclament une part, finalement, en disant, ben, nous, on veut se développer, comment est-ce qu'on peut faire? On sent que là, ça peut être un gros point de blocage, il faut du financement et des transferts de technologies.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par la France en tant que hôte de cette conférence. C'est aussi quelque chose que le secrétaire général avait toujours dit. Il faut, bien sûr, les contributions de chaque nation. Il faut, deuxièmement, un bon accord. Troisièmement, il faut un plan de financement. Les pays du Nord sont d'accord de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement. Maintenant, ce qu'il faut faire à Paris, c'est que les pays du Nord, les pays de l'OCDE, puissent montrer une trajectoire comment ils vont mobiliser cet argent d'ici 2020. C'est pas nécessaire d'avoir les 100 milliards sur la table en décembre, mais il faut absolument ce trajectoire qui est politiquement crédible.
Alors la difficulté de ces discussions sur le climat dans le cadre des Nations Unies, c'est quand bien même il y aura un accord ambitieux à Paris, un pays qui ne respecte pas ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre n'aura pas de sanctions. C'est ça le principe des Nations Unies, c'est qu'on est sur la base de déclarations. Et après, au pire, on a l'opprobre de la communauté internationale.
Mais on peut aussi regarder de l'autre côté. Il y a la transparence de l'information, il y a les ONG, et il y a aussi des autres gouvernements. Donc s'il y a un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il a promis à faire, les autres vont dire, pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous arrivez pas au niveau que vous avez promis?
On voit de plus en plus les effets des changements climatiques, vous le disiez tout à l'heure, et on voit aussi qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde qui ont des causes environnementales. On pense par exemple à la Syrie, au Darfour, qui, à cause de désertification, ont entraîné des déplacements de population qui, du coup, ont causé des conflits. Donc on voit bien que ce problème des changements climatiques, c'est aussi un problème de paix. Et là, ça rejoint aussi le rôle des Nations Unies.
Oui, le problème avec le changement climatique, il a un impact sur tout, sur la sécurité, sur l'agriculture, sur l'économie, sur les gens directement, une question de santé aussi, et ça multiplie des problèmes. Et c'est pour cela que c'est encore plus important, et comme vous dites, on ne peut pas simplement traiter le changement climatique dans un petit bulle isolée du reste de l'économie, de sécurité, des choses politiques. Ça fait partie de tout.
Le 20 juin, c'est la journée internationale des migrations. On voit de plus en plus de migrants qui affluent notamment de l'Afrique vers l'Europe. On craint un afflux de réfugiés dans les décennies qui viennent à cause des changements climatiques.
On peut dire qu'avec le changement climatique, on va avoir plus des événements météorologiques extrêmes. On va avoir plus d'aridité dans certaines régions, il y aura plus de pluie, de grandes pluies dans d'autres régions, qui va avoir des effets négatifs sur l'économie, sur la situation en général. Donc, il y aura toujours des gens qui veulent fuir ces régions, et c'est probable qu'il y aura plus d'immigrants. Donc, on a déjà suffisamment de problèmes au niveau des migrations, parce qu'il y a plus de réfugiés que jamais dans le monde.
Et en parallèle de ça, on observe la montée des nationalismes dans de nombreux pays qui ont comme discours « on doit fermer les frontières ».
Il faut avoir un peu plus de solidarité vers le reste du monde. Parce que on peut pas oublier que, dans le fond, le changement climatique, historiquement, c'était à cause de l'industrialisation, ce qui a donné la richesse dans les pays qui sont riches aujourd'hui. Et les effets aujourd'hui sont sur les gens qui n'ont pas causé ce changement climatique. Donc historiquement, on a une certaine responsabilité morale vis-à-vis de ces gens.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, en même temps, on voit bien que personne ne veut accueillir la population du Bangladesh qui va se retrouver sous l'eau, que la France a l'extrême droite qui monte, que le Royaume-Uni ferme ses frontières et que les gens essayent par tous les moyens d'y rentrer. Donc, c'est formidable d'avoir un discours de solidarité, mais dans les faits, ça ne marche pas.
Oui, mais c'est pas simplement un discours. On a un processus multilatéral et on essaie de faire ce qu'on peut dans ce processus. Pourquoi on parle de questions de financement? Parce que c'est un moyen d'assister à ce problème. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, c'est clair. On vit dans un monde complexe, mais on peut faire des choses. Et il faut faire ces choses.
Alors faire ces choses, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous mettriez en place les priorités?
Dans le contexte du changement climatique, c'est très clair. Il faut qu'il y ait un paquet de financement clair pour assister les pays en développement de pouvoir se développer sans émissions, ou avec moins d'émissions.
Et puis pour pouvoir vivre harmonieusement chez eux, ce qui enrayerait justement l'émigration.
Et c'est possible. C'est pas un rêve impossible. On peut le faire, il faut le faire.
Globalement, vous pensez qu'on est dans la bonne trajectoire aujourd'hui pour répondre à ce défi des changements climatiques, malgré tout ce qu'on vient de dire?
Oui, oui, on est sur une bonne trajectoire, mais on n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et même avant Paris. Et Paris, ce n'est pas la fin de notre travail sur le changement climatique. On ne va pas tout résoudre à Paris. Paris, c'est très important. C'est une conférence très importante, et les décisions de Paris seront significatives pour ce qui vient. Mais il y a encore énormément de choses à faire pour les années qui viennent.
Merci, Yanis Pastor.
Rien, merci beaucoup.
RFI.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term will have a significant damage.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
Yanis Pastor vient de l'évoquer, l'ensemble des pays du monde ont jusqu'au mois d'octobre pour fournir leur contribution, pour dire ce qu'ils vont faire chacun à leur niveau national, non seulement pour limiter les changements climatiques, mais aussi pour s'adapter à leurs conséquences. Décryptage avec Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Anne-Cécile.
À 6 mois de la conférence de Paris, les négociations reprennent lundi prochain à Bonn, en Allemagne. Pendant 15 jours, les 195 pays membres de la Convention des Nations Unies sur le climat doivent définir les termes du futur accord international. Alors, les pays ont commencé à annoncer ce qu'ils entendent faire pour lutter contre le changement climatique, pour préparer justement cet accord. Alors, où en est-on ?
Eh bien, la pièce maîtresse pour commencer d'entrer dans la discussion, c'est ce qu'on appelle une contribution. C'est-à-dire la stratégie que chaque pays entend suivre d'ici 2030 pour appliquer la lutte contre le changement climatique. Alors, au départ, c'était surtout aux pays industrialisés de poser leur copie. Donc, on a la copie de l'Union européenne et d'autres pays européens, on a celle des États-Unis, on a celle de la Russie. Et donc, on peut déjà voir quel est le bilan. Ça fait une trentaine de pays, mais manque à l'appel les autres pays industrialisés, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a deux pays en développement qui ont déposer leur copie, le Mexique et le Gabon.
Alors, quelles sont en gros les volontés qui s'expriment à travers ces contributions des pays ?
Eh bien, on peut déjà tirer quelques enseignements. D'abord, l'Union européenne. Son engagement est élevé, 40% de réduction de ses émissions par rapport à 1990. Mais elle ne dit pas comment elle va faire. Ni en termes de moyens, ni les secteurs qui sont concernés, ni les filières. Et donc, sa copie est très sèche, elle n'a pas d'effet d'entraînement. Les États-Unis, leur problème est différent. Ils ont, eux, un énorme problème interne, puisque Barack Obama n'a pas la majorité au Congrès. Donc l'engagement des États-Unis, c'est seulement 14% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement est bien évidemment complètement disproportionné par rapport à celui de l'Union européenne. Donc on a une très très grande asymétrie d'engagement. Donc il va falloir, pour l'ensemble de ces pays, qu'on avance. C'est-à-dire que les pays précisent quelle est la nature de leurs actions, quelles sont les filières concernées, comment ils entendent agir, parce que c'est ces précisions qui auront ou non un effet d'entraînement vis-à-vis des autres pays, les pays émergents, les pays en développement, avec aussi derrière des techniques, des financements qui vont être mis à disposition pour entraîner tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on a des copies avec des engagements, mais on n'a pas d'effet d'entraînement, on n'a pas de dynamique, et donc il va falloir continuer de progresser.
Oui, parce que tout ça va avoir évidemment des conséquences très fortes pour l'accord de Paris.
Tout à fait, et encore une fois, l'accord de Paris doit inclure les pays émergents et les pays en développement, et donc sans soutien, ils ne viendront pas. On attend la copie de la Chine et des pays émergents. Cette copie n'est pas arrivée. Et puis, les pays en développement doivent déposer leur copie pour le mois d'octobre. Et on voit bien que la faiblesse des propositions des pays industrialisés a quand même un effet de refroidir. Or là, il faut créer la dynamique. Et donc, les copies vont être à revoir dans les mois qui viennent pour renforcer l'avancée vers l'accord de Paris.
Et puis, on attend les copies des pays en développement.
Alors, eux s'impliquent parce que leur poids dans la négociation dépend de la qualité de la copie qu'ils donnent. Et puis de l'autre côté, s'ils veulent avoir un accès facilité aux financements internationaux et aux technologies, il faut qu'ils disent, dans les différents secteurs, les différentes filières sur lesquelles ils veulent avancer. Et donc, pour eux, c'est effectivement vital pour avoir des moyens dans le futur.
Alors, comme vous le disiez, le Mexique et le Gabon l'ont fait, et bien fait, on attend maintenant les autres.
Tout à fait.
Merci Pierre Radan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve juste après le flash d'info avec Caroline Langlois et une bande d'adolescents qui vont découvrir, comme nous d'ailleurs, l'immense impact de l'utilisation des smartphones, ordinateurs et autres tablettes. À tout de suite.